Chapitre 3. Pauvre enfant. Le presbytère ressemblait, s'il m'est permis de faire cette comparaison, à mon récit. Il était divisé en deux parties distinctes. La première ne m'intéressa aucunement. La seconde, formant angle droit avec la première, portait un certain cachet d'ancienneté. Elle avait, dans le temps, servi de couvent à des religieuses et était percée de petites fenêtres gothiques. Ces murs vénérables, noircis par le temps, avaient été réparés jadis avec des briques d'un aspect original. Je fus déçu dans mon espoir d'entrer par ce côté de la maison. Le petit domestique, qui semblait assez embarrassé de ma personne, me précéda et sonna à une porte qui se trouvait dans la partie moderne de la maison. Une jeune servante à l'air négligé me fit entrer. Cette fille ne savait probablement pas recevoir. Peut-être aussi l'irruption subite d'une foule d'enfants assez malproprement vêtus et courant à ma rencontre dans le corridor, puis disparaissant mystérieusement, lui fit-elle perdre la tête. Le fait est qu'ainsi que le petit domestique, elle se montra fort embarrassée en me voyant. Après m'avoir bien dévisagé, je porte ma nationalité écrite sur ma figure, elle ouvrit brusquement une porte de côté et m'introduisit dans une petite pièce. Deux des enfants au tablier sale s'enfuirent de l'asile qui m'était ainsi offert en poussant de grands cris. Quand le silence fut rétabli, je donnai mon nom à la bonne. Elle parut effrayée de sa longueur. Je lui tendis alors ma carte. Elle la prit entre un index et un pouce d'une propreté douteuse et l'examina avec curiosité comme un phénomène surprenant en y laissant l'empreinte de ses doigts. Elle la retourna en tous sens et, renonçant à comprendre ce mystère, elle sortit. Au bruit qu'ils firent, je reconnus que les enfants, revenus à la charge dans le corridor, l'avaient arrêtée en route. Il y eut des chuchotements, des rires étouffés et, de temps en temps, un grand coup dans la porte. Inspirée peut-être par les enfants, mais à coup sûr poussée violemment par eux, la bonne reparut subitement. « Ayez la bonté de venir par ici !» me dit-elle. L'armée enfantine battit de nouveau en retraite dans les escaliers. Un des enfants portait ma carte et l'agitait triomphalement sur le palier du premier. Nous nous engageâmes dans le couloir. Une autre porte s'ouvrit, puis, sans être annoncée, j'entrai dans une pièce plus spacieuse. Ma bonne étoile m'avait enfin conduite en présence de la maîtresse de la maison. Je fis ma plus belle révérence et me trouvai devant une grosse dame, à l'air languissant, lymphatique de tempérament et ornée d'une chevelure d'un blond jaunâtre. Elle venait évidemment de se promener de long en large dans la chambre quand j'entrai. Et si l'on pouvait appliquer l'expression d'humide à une femme, c'est à celle-là que je l'appliquerai. Sa figure, d'un blanc fade, semblait recouverte d'un vernis d'humidité. Ses yeux, d'un bleu clair, semblaient noyés par une surabondance de fluide lacrymal. Elle n'était pas encore coiffée et son bonnet de dentelle pendait de côté. Elle était enveloppée d'une robe du matin en mérinos bleu. Un peignoir en basin d'un blanc douteux complétait son costume. D'une main, elle tenait un roman emprunté à un cabinet de lecture, tout écorné et crasseux. De l'autre, elle portait, enveloppée de flanelle, un enfant qu'elle était en train d'allaiter au moment où j'entrai. Ma première impression, impression qui ne changea pas dans la suite, fut que l'épouse de M. Finch était toujours habillée à demi, jamais bien sèche, et qu'elle tenait invariablement un enfant d'une main et un roman de l'autre. « C'est à Madame Pratolungo que j'ai l'honneur de parler, » me dit-elle. « Oui, madame. » « J'espère que l'on aura prévenu Mademoiselle Finch de votre arrivée. Elle occupe un appartement séparé et dirige elle-même son intérieur. Avez-vous fait un voyage agréable ? » ajouta-t-elle en semblant penser à toute autre chose. Elle devait sortir d'une des classes inférieures de la société et me sembla d'une nature faible mais bonne. « Je vous remercie, Madame Finch, lui répondis-je. J'ai fait un voyage des plus agréables à travers vos belles vallées. » « Ah, vous aimez les montagnes. Pardon, vous aurez la bonté d'excuser mon négligé. J'ai perdu une demi-heure ce matin. C'est étonnant, lorsqu'on perd une demi-heure dans notre maison, il est impossible de la rattraper. » Je découvris bientôt que Mme Finch perdait régulièrement sa demi-heure tous les jours et qu'elle ne réussissait jamais à regagner le temps perdu. « Je comprends, madame, les soucis d'une nombreuse famille. »« Ah, nous y voilà !» C'était l'expression favorite de Mme Finch. « Mon mari se lève et descend jardiner. Il faut débarbouiller les enfants, et si vous saviez comment on gaspille dans la cuisine, mon Dieu !» Finch rentre sans prévenir personne et demande à déjeuner. Je ne puis abandonner le baby. Bon, encore une demi-heure de perdu. Comment la rattraper? À cette partie de notre conversation, le bébé monta par des signes évidents que son petit estomac avait absorbé plus de lait qu'il n'en pouvait supporter. Je pris le roman, tandis que Mme Finch cherchait son mouchoir dans la poche de son peignoir et dans tout l'appartement. À ce moment critique, on frappa. Une femme âgée, qui contrastait favorablement avec tout ce que j'avais vu de la famille, entra. Elle était simplement mais proprement mise et me salua. « Pardon, madame, me dit-elle, ma jeune maîtresse n'apprend votre arrivée qu'à l'instant. Veuillez me suivre. » Je regardai Mme Finch. Son mouchoir enfin retrouvé avait servi à faire disparaître toute trace de la gloutonnerie du bébé. Je lui tendis respectueusement le roman. « Merci, me dit-elle, je trouve que les romans me calment l'esprit. En lisez-vous, faites-moi souvenir de vous prêter celui-ci demain. » Je la saluai et j'aperçus en sortant qu'elle avait repris sa promenade dans l'appartement, tenant toujours son bébé d'une main et son roman de l'autre, tandis que son peignoir de basin balayait le plancher derrière elle. Au haut de l'escalier, nous entrâmes dans un couloir blanchi à la chaux et percé de portes peintes en gris. Ces portes, qui étaient évidemment celles des chambres à coucher, s'entr'ouvrirent successivement sur notre passage, et j'aperçus des marmots qui nous regardaient furtivement, puis disparaissaient en jetant de grands cris. Je demandai à mon guide quel était le nombre des enfants de Mme Finch. La bonne vieille s'arrêta et réfléchit un instant. En comptant le bébé, deux couples de jumeaux et un enfant de 7 ans, né faible d'esprit, elle en a 14. Je considère les prêtres, les rois et les capitalistes comme les ennemis de l'humanité. Mais je ne pus me défendre d'un certain intérêt pour le révérend Finch et me demander s'il n'enviait pas parfois la condition des prêtres catholiques auxquels l'Église a forçagement défendu le mariage. Je faisais cette réflexion lorsque mon guide prit une clé et ouvrit une lourde porte en chêne qui fermait l'extrémité du couloir. Elle m'expliqua que l'on tenait la porte constamment fermée à cause des enfants qui, sans cette précaution, envahiraient à toute heure cette partie réservée de la maison. Ce que j'avais vu de toute cette marmaille me fit regarder la susdite porte avec un profond sentiment de respect et de vénération. Après avoir fait un détour, nous entrâmes dans le corridor voûté de la portion antique de la maison. Les croisées, à baies profondes et garnies de pots de fleurs, donnaient sur le jardin. Le mur était tendu de perses couleur clair, les portes peintes en blanc et rehaussées de moulures dorées. Un tapis aux couleurs brillantes et de fabrication américaine recouvrait le parquet. Le plafond était d'un bleu clair bordé de fleurs peintes. Il n'y avait pas une seule couleur foncée dans tout l'appartement. En face de la porte, une jeune fille, vêtue d'une robe d'une blancheur immaculée, se penchait au-dessus des fleurs de la fenêtre. C'était la jeune aveugle que je devais consoler dans sa nuit éternelle. Les braves gens du pays compatissaient à son malheur et avaient ajouté un qualificatif à son nom. Ils ne l'appelaient que la pauvre Mademoiselle Finch. Quant à moi, elle restera dans mon souvenir, avec le nom gracieux qu'elle portait, et je ne la nommerai plus désormais que Lucille. Elle était occupée, quand j'entrai, à enlever les feuilles mortes de ses fleurs. Son oreille délicate distingua le bruit insolite de mes pas avant même que je me fusse approché d'elle. Elle leva la tête et s'élança à ma rencontre, tandis qu'une légère et fugitive rougeur se montrait sur son visage. J'ai visité jadis le musée de Dresde. Cette jeune fille me rappela d'une manière frappante le joyau le plus précieux de cette magnifique collection, la Madone de San Sisto. le front large et modelé, la partie qui se trouve entre le sourcil et la paupière bien accusée, le galbe délicat du bas de la figure, la lèvre pleine de tendresse et de sensibilité, ses traits, ses cheveux et jusqu'à son teint, tout rappelait exactement la Madone du tableau de Dresde. Ce n'était qu'aux yeux, point fatal, que s'arrêtait la ressemblance. On ne reconnaissait plus dans cette copie vivante de la Vierge de Raphaël les yeux divins de l'original. Lucille, ma pauvre chère aveugle, n'avait aucun défaut dans les traits, rien qui pût inspirer un sentiment de répulsion, mais ses pauvres yeux éteints restaient fixes et sans expression. Au-dessus et autour, jusqu'au bord même des paupières, on voyait la beauté, le mouvement, la vie. Mais dans l'œil même, on ne trouvait que la mort. À part cette navrante cécité, je n'ai jamais vu de plus charmante créature. Toute sa personne était à l'avenant. Elle avait cette taille et ces proportions, cette longueur raisonnable des membres inférieurs qui suffit à rendre gracieux jusqu'au moindre mouvement d'une femme. Elle possédait un timbre de voix délicieux, clair, gai, sympathique, une bouche charmante à laquelle le sourire donnait un charme de plus. Je l'aimais avant même de lui avoir serré la main. « Ah, ma chère demoiselle ! » m'écriai-je étourdiment. « Que je suis donc contente de vous voir !» À peine je prononçai ces paroles que j'aurais voulu me couper la langue pour lui avoir appelé d'une manière si brutale qu'elle était aveugle. À mon grand soulagement, elle n'eut pas l'air de s'apercevoir de ma bévue. « Me permettez-vous, dit-elle avec douceur, d'examiner vos traits à ma façon ?» Et elle levait vers moi sa jolie main blanche. « Voulez-vous me permettre de vous passer les mains sur la figure ?» Je m'assis sur le bord de la fenêtre. Il me sembla que les bouts rosés de ses doigts me couvraient la figure entière. Par trois fois, elle passa rapidement sa main sur moi, tandis que ses traits exprimaient l'émotion de l'attente. « Parlez encore !» me dit-elle tout à coup en tenant sa main levée au-dessus de moi. Je prononçai quelques paroles. Elle m'arrêta en m'embrassant. « Je sais ce que je voulais savoir !» s'écria-t-elle avec joie. « Votre voix dit à mon oreille ce que vos traits disent à mes doigts. Je suis sûre que je vous aimerai bien. Venez voir les appartements que nous allons habiter ensemble. » Comme je me levais, elle me prit par la taille, mais retira subitement son bras en secouant la main avec impatience, comme si quelque chose l'avait blessée. « Vous seriez-vous piqué à une épingle ?»« Oh non !» me répondit-elle, « ce n'est pas cela. Quelle est la couleur de la robe que vous portez ?» Violet foncé. Oh, je ne me trompais pas. Je vous en prie, ne portez pas de ces couleurs-là. J'ai une horreur instinctive et irraisonnée pour tout ce qui est sombre. Chère Madame Pratolungo, je vous en supplie, portez à l'avenir des couleurs claires, ne fût-ce que pour me faire plaisir. Elle me passa son bras d'une manière caressante autour du cou, de sorte que sa main reposait sur mon col de toile blanche. « Vous changerez de robe avant dîner, n'est-ce pas ? » dit-elle tout bas. « Permettez-moi de vous aider à déballer vos malles et de choisir moi-même la robe que vous allez porter. » Je compris alors son antipathie pour les nuances sombres et la raison pour laquelle le corridor était décoré de couleurs claires. Nous entrâmes dans les appartements. La chambre à coucher de Lucille et la mienne étaient séparées par le salon. Ces pièces répondaient bien à l'idée que je m'en étais faite d'avance. Elles étaient d'une propreté scrupuleuse, et il y avait partout des glaces, des dorures, des ornements brillants et une foule de jolis riens attrayants. Cet appartement ressemblait bien plus à ce qu'on trouve dans mon heureux pays natal, si gai et si vivant, qu'aux rooms de l'Angleterre, si sombres et si ternes dans l'ornementation et la couleur. Mais ce qui m'étonnait le plus, c'était de voir que tous ces ornements étaient destinés à une jeune fille qui ne pouvait en jouir par les yeux. L'expérience devait me démontrer dans la suite que l'imagination des aveugles leur crée une existence en dehors du commun et qu'ils ont leurs caprices et leurs illusions, absolument comme nous qui avons le privilège d'y voir. Pour satisfaire le caprice de Lucille et changer de robe, il fallait que je fisse apporter mes malles. Elles étaient restées dans la voiture que le petit domestique avait conduite sous la remise. La personne âgée qui m'avait guidée nous quitta sans bruit et reparut avant même que Lucille eût eu le temps de sonner. Elle était suivie du petit domestique et d'un groom qui portait à eux deux mon bagage. Ils avaient en outre divers paquets achetés à la ville pour leur jeune maîtresse et un objet enveloppé de papier blanc qui me fit l'effet d'une bouteille de pharmacie. Cette bouteille devait jouer son rôle dans les événements de la journée. « Je vous présente ma vieille nourrice, » me dit Lucille. « Zilla sait faire un peu de tout, elle a appris à faire la cuisine dans un club de Londres. Vous me rendrez bien heureuse en l'aimant. Vos malles sont-elles ouvertes, madame ?» En me faisant cette question, elle se mit à genoux devant une de mes malles. Je n'ai jamais vu de jeune fille jouissant de l'usage de ses yeux qui prit autant de plaisir à une distraction aussi insignifiante que celle de déplier des effets. Cette fois cependant, la merveilleuse délicatesse de son toucher lui fit défaut. J'avais deux robes d'un tissu absolument pareil, mais de couleurs différentes. Elle prit la robe foncée pour celle qui était claire. Je m'aperçus qu'elle éprouva un vif désappointement lorsque je lui fis remarquer sa méprise. Une autre expérience qu'elle fit vint cependant lui rendre sa confiance dans la délicatesse de son toucher. Elle découvrit les raies de couleur dans une jolie paire de bas que je possédais. Sa gaieté lui revint tout de suite. « Dépêchez-vous de faire votre toilette, » dit-elle en me quittant. « Nous dînons dans une demi-heure, et pour fêter votre arrivée, nous aurons des plats français. J'aime les bons petits dîners, et je suis ce que vous appelez dans votre pays gourmande. Voyez les tristes résultats de cette vilaine habitude, » dit-elle en portant la main à son joli visage. « J'engraisse à 22 ans et je suis menacée d'un double menton. Quelle honte !» Sur ce, elle me quitta. Telles sont mes premières impressions sur la pauvre Lucille.